des enfants de Yitzhak. Est-ce que c'est le cas? J'ai parlé de cela? Attendez que je me souvienne. Bon, c'est très bien. Alors, je vais vous résumer très rapidement. Et nous avons eu donc la dernière fois, si c'est bien le cas, que la Torah nous raconte une difficulté très grande de la suite des engendrements, de la suite de Toldot, à partir du mariage de Yitzhak et de Rebecca et de Rivka. Alors, vous me direz tout de suite si j'ai parlé de cela. Nous avons vu que, en fait, nous sommes habitués à savoir, a posteriori, vous arrivez à m'entendre, il y a quelque chose d'ouvert là où du brèche.
C'est vrai
ou du brèche du téchou ici. Nous avons vu que il y avait en général une difficulté pour l'engendrement des enfants des patriarches, déjà depuis le temps d'Abraham. Abraham et Sarah, ça avait été difficile d'obtenir que Yitzhak puisse naître. Je ne sais pas si cette année on a étudié ça en détail d'ailleurs. Mais lorsqu'on arrive à la deuxième étape, à la deuxième génération, l'enfantement, on dit enfantement pour les mères et engendrement pour les pères, en français. Mais en hébreu, on emploiera le terme de toladot. Olada, tolada. Donc l'engendrement, à partir de Isaac et de Rivka, se heurte à une difficulté beaucoup plus grande que celle qu'on trouve habituellement dans l'engendrement de l'identité d'Israël. Peut-être qu'en récapitulation, on reprendra le problème. Pourquoi, au fond, y a-t-il cette difficulté d'engendrer, d'étape en étape, l'identité Israël, jusqu'à ce qu'on arrive à cette identité réussie que les prophètes appellent le Ben Adam, le fils de toute cette histoire qui s'appelle l'histoire de Adam, et qui est l'identité messianique. Cette identité messianique s'engendre à travers une société qui est la matrice d'engendrement, qui se prépare depuis le début de l'histoire de l'humanité, d'après le récit de la Torah, et qui émerge, qui apparaît avec la famille des patriarches. À partir de la famille des patriarches, c'est irréversible, c'est dans cette identité humaine-là que le Ben Adam est en train d'être engendré. C'est bien clair, ok? Alors on s'aperçoit que, d'une façon générale, cet engendrement se heurte à un obstacle, à des difficultés, ce n'est que, en fin de compte, que cette difficulté est résolue et que cet enfant que l'on attend peut être engendré. C'est vrai dans les trois niveaux de l'histoire des patriarches, l'engendrement de Yitzhak, l'engendrement cet enfant qu'on attend qui devrait être Israël, mais ce sont deux jumeaux qui vont naître, Ésaü et Jacob, et puis dans la suite, dans la famille de Jacob, l'engendrement des enfants de Jacob par Rachel. Et lorsque nous arriverons, j'espère qu'on aura le temps cette année, à cette division de l'ensemble d'Israël en deux grands courants, les fils de Rachel, les fils de Léa, et on reprendra ce problème. Les fils de Léa, c'est facile à enfanter. Ce sont les fils de Rachel qui sont difficiles à enfanter. Alors, apparaît ici un principe, c'est que l'engendrement qui se cherche est défini précisément par la lignée où c'est le plus difficile de le réussir. C'est-à-dire qu'il y a une identité humaine à réussir, tant qu'elle n'est pas apte à le réussir, il y a obstacle. D'une certaine manière, Dieu empêche l'enfantement, c'est un verset très clair qui le dit à propos de Jacob et Rachel, Dieu empêche l'enfantement s'il y a risque d'une approximation. Si l'enfant qui doit être engendré d'étape en étape, le tzaddik, n'est pas vraiment ce qu'il doit être, alors il y a empêchement de l'enfantement. Parce que si c'était une approximation qui apparaît, ce serait un échec grave. Et d'ailleurs, nous savons que à chaque étape, ce type d'approximation apparaît quand même, et que cela crée pour l'avenir des problèmes extrêmement difficiles. Ça, on l'a vu déjà dans les premières générations. Par exemple, il y a une approximation d'Isaac qui est Ishmaël. Et si on a étudié à deux ou trois cours, s'il y avait une capacité de foi et de patience suffisante pour attendre Isaac et ne pas avoir cette impatience qui a été celle de Sarah et d'Abraham, peut-être que Ishmaël ne serait pas né. Je dis peut-être, hein, on ne refait jamais l'histoire à l'envers. Mais qu'est-ce que c'est qu'Ishmaël par rapport à Isaac? On a étudié quelques aspects du problème. Tout se passe comme si Ishmaël est une approximation d'Isaac. qui s'instaure finalement en rivalité d'Isaac. Vous vous rappelez qu'on a étudié la différence du rire chez Ishmael et chez Isaac. Vous vous rappelez de cela? Les deux sont capables de rire, mais ce n'est pas le même rire. Et d'ailleurs, tous les conflits entre Ishmael et Isaac sont accompagnés du rire d'Ishmael. Si vous suivez les événements à travers une lecture biblique, vous remarquerez que les Arabes rient de moins en moins et les Juifs pleurent de moins en moins. Bon, mais il y a ici tout un problème qui nous est déjà raconté dans la Bible. Je reviens au sujet. Alors, quelle est la difficulté de l'enfantement à partir d'Isaac et de Rebecca? C'est le problème de la paracha Toldot. Eh bien, on attend un enfant qui serait Israël. D'après l'analyse des Midot, des vertus qu'il faut arriver à conquérir pour que l'identité Israël, à reconquérir pour que l'identité Israël apparaisse, on a le tzaddik de Minat HaChesed, c'est Abraham. C'était pas facile, mais il est réussi. Il engendre, et c'est pas facile, mais il y arrive. Le tzaddik de la Midat HaDin, c'est Yitzhak. Et puis, donc, on attend à la troisième étape, le tzaddik de la Midat HaRachamim, qui fera l'union des deux vertus, celle d'Abraham et celle d'Isaac. Je vous dis la chose de manière schématique, pour que vous la reteniez de façon simple. Abraham n'est pas encore Israël. Il faut arriver à faire exister comme fils d'Abraham la vertu opposée, celle d'Isaac. Isaac n'est pas encore Israël. Mais si Isaac réussit à être fils d'Abraham vraiment, alors il est prêt à enfanter Jacob, qui lui sera Israël. Donc ce qu'on attend, c'est Israël. A priori, on n'attend pas Jacob et Ésaü. On attendait Israël. Retenez bien cela. Okay? Et c'est une surprise de savoir qu'Israël ne peut pas naître. Alors il y a une sorte de stratégie de la Providence dans cet engendrement qui va tourner la difficulté et faire exister deux frères jumeaux qui se partageront cette identité impossible qui serait l'identité d'Israël. Première question, pourquoi elle est impossible? Ça, on a appris la dernière fois, il me semble, parce que comme fils d'Isaac, cet enfant attendu serait un tzaddik, serait le tzaddik parfait, fils d'Isaac, fils d'Abraham. C'est clair. Mais comme fils de Rivka, il est un tzaddik fils de Rachar, parce que Rivka mène avec elle l'hérédité de la lignée araméenne qui risque de ressurgir chez cet enfant. Alors on a ici, je voudrais que vous arriviez à le comprendre simplement, et ensuite c'est pas grave si vous oubliez. L'essentiel c'est de comprendre ce qui se passe là. Inévitablement, la lignée des patriarches, Abraham, Isaac, va prendre en charge l'état de l'humanité. Et l'état de l'humanité qu'elle va prendre en charge pour la sauver, pour en faire la rédemption, pour en faire le tikkun, la réparation, et finalement arrive à être cette identité que j'ai appelée depuis le début de cette étude l'identité araméenne. L'identité goy est la plus proche d'Israël dans l'identité araméenne. Et par conséquent, il y a cette espèce de miracle dans cette histoire de cette famille qu'il y a une des femmes de cette identité araméenne qui peut être l'épouse de Isaac. Et voilà que donc l'enfantement peut continuer, l'engendrement peut continuer, mais il y a un handicap. Il y a un handicap. C'est-à-dire le problème qu'il y a à résoudre est a priori un problème impossible. Il faut sauver la matière, il n'y a que l'âme qui peut sauver la matière. Mais c'est la matière qu'elle doit sauver. Et par conséquent, du côté de l'âme, la personne qui sera issue de l'union entre l'âme et la matière, du côté de l'âme, cette personne, c'est tzaddik, mais du côté du corps, c'est rachat. C'est une manière de comprendre les choses. Hein. J'espère que ça vous aide à le comprendre. Ça veut dire, c'est bien cette identité de l'humanité au niveau Rivka qu'il faut prendre en charge, mais parce que c'est elle, elle a une hérédité qui risquerait de faire que l'enfant qui va naître soit à la fois tzaddik et rachat. Je pourrais vous le répéter d'une autre manière, mais il suffit de le comprendre. Il y a un obstacle dans l'identité humaine. Alors, je vous avais dit aussi la dernière fois, sinon je l'explique plus en détail, nous avons là, de manière exemplaire, dans cet enfant dont on attend la naissance, et dont on pressent que cette naissance risque d'être catastrophique, et donc elle est empêchée, il y a l'identité exemplaire de tout homme. Tout homme est un petit peu comme ça, parce que tout homme, ça on l'apprend de Adam Harishon lui-même, tout homme a un Yetzer Hara et un Yetzer Tov. Un Yetzer Tov et un Yetzer Hara. tout homme est fait de la tendance au bien et de la tendance au mal. Et ici, nous l'avons de manière paroxysmique. Vérifiez dans le dictionnaire, je crois qu'il y a un mot parmi les autres. De manière, absolue, c'est l'identité humaine qui apparaît là dans toute sa contradiction, à la fois bien et mal. Alors, il y a des raisons pour lesquelles Dieu a créé l'homme comme ça. Mais on apprend que ce tzaddik que l'on espère risquerait d'être rachar. Alors imaginez le monstre, un être qui serait à la fois tzaddik et rachar. Alors, la stratégie de la Providence, c'est de couper la difficulté en deux. Il va naître Jacob et Ésaü. Et va commencer une histoire de savoir lequel des deux peut être Israël. Et ça ne peut être que l'un des deux. Alors, si c'est Ésaü qui devient Israël, c'est une catastrophe. On va voir pourquoi. Si c'est Jacob qui devient Israël, c'est réussi, mais c'est difficile. Alors, l'histoire d'Israël va commencer avec Jacob. Et qu'est-ce qu'il faut arriver à résoudre? C'est ce problème apparemment insoluble, c'est que les deux vocations humaines, la vocation matérielle et la vocation spirituelle, puissent être réussies toutes les deux dans le bien. Alors on va suivre différentes équations, de temps en temps on va se référer au verset, et puis dans la deuxième partie du cours, on verra pourquoi Rivka va réussir à ce que la bénédiction promise à Ésaü soit donnée à Jacob. Voilà le programme de l'étude maintenant. Okay. Alors, je vais vous demander, parce que ce sont des problèmes qui demandent énormément de mémoire, des détails, je suis obligé de les schématiser. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans un raisonnement, arrêtez-moi tout de suite. Okay. Ne laissez pas les choses traîner. Et je vais faire tout mon possible pour schématiser tout ça. C'est une histoire qu'on apprend pendant des mois, pour pouvoir comprendre chaque verset, ce qu'indique chaque verset. Je n'ai pas commencé. Déjà, avant que je commence, tu as des questions. Après. Je devine ce que tu veux me demander, mais on n'a pas le temps. Je reprends ce que j'ai dit. On apprend que il y a deux récits de l'histoire d'après la Torah. Il y a un récit de l'histoire qui commence à Adam, et qui est un récit catastrophique. C'est un récit très, très pessimiste. Vous avez vu ça dans les premiers cours depuis le début de l'année. La Torah raconte toute une série d'échecs. Ça va d'échec en échec. Dans la première partie de cette histoire, on arrive au déluge. Toute une humanité qui est effacée après une tentative de civilisation qui mène à l'échec. C'est fini. Hein? Et ça continue. Et alors, si c'est très paradoxal de voir que la Torah nous enseigne un récit pessimiste de l'histoire humaine, qu'on trouve dans la Bible, ce pessimisme-là, c'est très paradoxal. Si on n'y prend pas garde, on risquerait d'apprendre, de la manière dont la Torah parle du récit de l'histoire humaine, un pessimisme absolu. Or, c'est le contraire de l'optimisme de la tradition d'Israël. Parce que, à un certain moment, ce même récit, les mêmes situations humaines sont reprises dans une famille humaine où il y a la perspective d'une solution. Le même récit de l'histoire humaine reprend avec les mêmes situations à partir d'Abraham, dans la perspective d'une solution positive. C'est-à-dire l'espérance et donc l'optimisme commence avec la famille d'Abraham. C'est clair ? Vous avez donc deux récits de l'histoire, un qui mène à Kohelet. Je dis ça pour ceux qui ont déjà lu le livre de la Bible. C'est-à-dire que c'est un récit pessimiste. Vous avez lu Kohelet, l'Ecclésiaste. Okay. Et l'autre qui mène à l'histoire de Ruth, qui a enfanté David. C'est une histoire qui est l'histoire humaine, mais reprise dans l'identité de la famille d'Abraham. À partir d'Abraham, les mêmes situations que la Torah a racontées dans les premières générations de l'humanité, et qui, au niveau de l'humanité en général, allaient toujours à l'échec, ces mêmes situations sont reprises dans la perspective d'une solution. Mais c'est difficile. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors vous retrouvez que, on l'a signalé en passant, la situation fondamentale qu'il faut résoudre, c'est la relation des frères. Et on a vu qu'il y a un progrès dans la famille d'Abraham. Ça, on a étudié dans les premiers cours. Finalement, tout le livre de Bereshit va arriver à l'histoire de Joseph et ses frères, et c'est la fin d'une tentative qui a commencé avec Caïn et Abel, qui échoue perpétuellement dans l'humanité universelle, et qui va en fin de compte réussir dans la famille d'Abraham. C'est quand Joseph et ses frères font la paix, se réconcilient, et qu'il y a amour entre Judas et Joseph. Vous voyez jusqu'où on va. Tout ça, c'est le livre de Bereshit. Et lorsque Joseph et ses frères font la paix, c'est Abel et Caïn qui sont réconciliés. Derrière. Et à ce moment-là, le livre de la Genèse s'achève, l'histoire d'Israël peut commencer. Eh bien, dans notre problème, c'est la situation Caïn et Abel qui est reprise au fond. Deux frères jumeaux qui apparaissent. Est-ce qu'il va se passer la même chose qu'entre Caïn et Abel? Si vous avez suivi les textes, vous avez dû remarquer qu'à un certain moment, Ésaü veut tuer Jacob de la manière dont Caïn avait tué Abel. C'est quand Rivka se révèle à Jacob pour lui dire « J'ai entendu ton frère dire, et je vous cite le verset, « J'attendrai le deuil de mon père et je tuerai mon frère Jacob. » Vous vous rappelez de ce verset? Non. Alors, il est évident, nous avons d'ailleurs dans le Talmud une définition très claire, « Halacha, c'est une halacha, Esav sonet Yaakov, Ésaü haï Jacob. » Même lorsqu'on voit un Ésaü qui fait semblant d'aimer Jacob, il faut savoir que c'est un Ésaü qui haït Jacob. Vous savez, les discours de pseudo-réconciliation que nous avons de la part de l'Église depuis Auschwitz, c'est un peu ce discours d'Ésaü disant à Jacob, tu es mon frère. Mais il y a quand même une croix plantée sur Auschwitz. Je referme la parenthèse, mais vous voyez à peu près de quel côté ça va. Alors, ceci dit, la situation Caïn-Abel va être reprise. La Torah va nous expliquer comment, dans la famille d'Abraham, dans l'identité de la famille d'Abraham, il y a un espoir de solution. Alors, première définition, dès les premiers versets, je ne voudrais pas les reprendre, ça nous prendrait trop de temps, mais j'espère que vous les avez lus, sinon on va s'y référer. La Torah nous raconte que ces deux jumeaux ont deux vocations différentes. L'un a la vocation des tâches matérielles de l'humanité. Ça, c'est Ésaü. Comment la Torah le dit? C'est un homme de la chasse. Qu'est-ce que c'est que la chasse dans l'histoire de l'humanité? C'est la manière matérielle d'obtenir la nourriture qui assure la vie. La chasse, c'est la première conduite qui permet à l'homme de manger. À quel homme? L'homme de type Caïn. Alors, la définition de la vocation d'Ésaü, c'est d'être l'homme de la matière. Alors qu'on apprend tout de suite que Jacob a pour vocation les tâches spirituelles. Il est l'homme de l'étude. La Torah nous dit qu'il est Yoshev Ohalim. Il habite les tentes, mais dans le vocabulaire du Mikra, dans le vocabulaire de la Bible, ça, les tentes, c'est la maison d'étude. Ça veut dire qu'on a affaire à deux jumeaux. Tant qu'ils sont très enfants, on ne voit pas la différence. Mais lorsqu'ils grandissent, je fais allusion au verset, les enfants ont grandi, alors on a vu la différence de leur vocation. Lorsque les enfants ont grandi, l'un a la vocation des tâches matérielles, l'autre a la vocation des tâches spirituelles. Or, la difficulté de la destinée humaine, c'est qu'il faut résoudre ces deux tâches. Et je vous donne tout de suite le sujet d'un problème très difficile. Est-ce qu'un même homme peut se vouer à ces deux tâches à la fois? Est-ce qu'un même homme peut être un homme de l'esprit et un homme de la matière? Est-ce que ce n'est pas incompatible? Première thèse, on va comprendre que c'est impossible. Deuxième thèse, on va voir que c'est le problème qui est posé à Israël, d'arriver à résoudre cela, être à la fois capable du génie des tâches matérielles et du génie des tâches spirituelles. Mais je veux d'abord que vous compreniez la difficulté. En principe, pour, disons, un homme de profil normal, c'est impossible. Je vous donne un exemple. Pour être un bon mathématicien, il faut faire des mathématiques 24 heures sur 24. Et autant que possible, avoir réussi à être un grand en mathématiques avant l'âge de 25 ans. Et si on a passé cet âge-là, c'est très difficile à devenir quelqu'un en mathématiques. Or, les mathématiques, c'est la clé de toutes les sciences. Alors, c'est le problème des sciences, c'est le problème de la solution des tâches matérielles de l'humanité. Comment aménager la planète en paradis terrestre? C'est ça l'objectif de la science. Comprendre comment le monde fonctionne pour savoir comment la technique peut l'améliorer. Vous avez compris le problème? Bon. Et finalement, c'était le génie grec qui a donné à l'humanité le langage des sciences qui est la mathématique. Je schématise beaucoup, mais plus exactement, c'est la civilisation grecque qui a utilisé la mathématique, qui a enseigné à l'humanité à utiliser la mathématique comme langage des sciences. La mathématique existait avant. Mais c'est les Grecs qui ont permis que la science moderne puisse apparaître un jour. Et la science moderne se définit par cette intuition que la clé des phénomènes de la réalité matérielle, c'est le langage mathématique. Ça, ça a été le génie grec. C'est bien clair. Bon. Et encore une fois, l'expérience nous montre que pour être un bon mathématicien, eh bien, il faut faire ça 24 heures sur 24. D'autre part, dans l'histoire de l'humanité, le problème de l'esprit, le problème des tâches spirituelles, a trouvé son génie chez les Hébreux. C'est les Hébreux qui ont été capables de la prophétie, de tout ce qui concerne la morale, de tout ce qui concerne l'ordre de la liberté, alors que les Grecs ont été géniaux dans l'ordre du déterminisme. Finalement, la mathématique, c'est le langage de la quantité, alors que la prophétie, l'Lachana Kodesh, disons, c'est le langage de la qualité, de la vertu, de la morale. Vous voyez, c'est deux manières d'être de l'homme. Par le corps, on est donné au monde de la quantité. Ça, c'est les tâches matérielles. Par l'âme, on est donné au monde de la qualité. En fin de compte, il y a dans l'histoire une rivalité entre les Hébreux et les Grecs. Parce que les Hébreux sont capables de s'occuper des tâches des Grecs. Un Juif peut devenir prix Nobel de mathématiques, bien que ce ne soit pas son problème. On donne un coup de main aux Grecs. Tandis que lorsque les Grecs s'occupent de Bible, il en sort ce qu'il en sort. Qu'est-ce que c'est que le christianisme? C'est un Grec qui se prend pour un Hébreu. Et alors la Torah, qui est la religion du Dieu vivant, devient une religion d'un Dieu mort. Je ne sais pas si vous remarquez comment ça va vite. Okay, et avec les mêmes mots, tout s'inverse. Ça vous apprendra à propos de Hanouka. Quel était le conflit entre les Judéens et les Grecs? C'est à qui appartient les tâches de l'esprit. Les Grecs ont voulu s'en emparer, ils les ont rendus impurs. Tandis que lorsqu'un Juif s'occupe des tâches des Grecs, la matière, il la transfigure. Un Juif parce qu'il est hébreu. Alors, je vais vite dans l'analyse, mais vous me direz si c'est suffisamment clair. Okay. Alors, premier niveau du problème. En principe et a priori, un homme n'arrive pas à être un génie dans les deux cas. Il faut donc deux frères. Un qui s'occuperait des tâches de la matière et un qui s'occuperait des tâches de l'esprit. Et s'ils sont vraiment frères, le problème de l'homme est résolu. Vous avez compris ce qui se passe? Bon, et on va voir que ce n'est pas facile du tout. Je finis l'analyse, hein, avant que vous ayez des questions. Alors, je reprends le problème. Je voudrais que ce soit bien clair. Pour être vraiment un homme de science, il faut se vouer à cela. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'obligation de connaître la Torah suffisamment pour savoir comment fonctionner comme juif. C'est-à-dire avoir étudié pour comprendre ce que la Torah enseigne concernant l'histoire du monde. Qu'est-ce que c'est que la foi, le Shulchan Aruch, de savoir comment on pratique, et puis une heure, deux heures d'études de Kodesh par jour, ça ne fait pas de mal. Mais c'est amateur par rapport à l'étude de la Torah. L'étude de la Torah pour réussir, c'est 24 heures sur 24. C'est ça que je comprends. Est-ce que c'est clair? Où va apparaître cet homme que l'on cherche, qui pourrait être capable d'être un génie dans les sciences et un génie dans la Torah? Alors que dans la journée, il n'y a que 24 heures, et on ne peut pas multiplier par 2 et en divisant par 100. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous connaissez la loi du Talmud. Pour un homme de niveau normal, disons, on doit diviser les 24 heures de la journée en 3 fois 8. Vous avez appris ça? 8 jours, on travaille. Et dans 8 heures, on travaille. Vous voyez, la journée de 8 heures, ça commence déjà dans le Talmud. Et puis dans le travail, il y a le temps qu'il faut pour manger, se laver, s'habiller, tout ça. Tout ça, c'est le travail. Qu'est-ce qui reste pour le patron? En tout cas, le Talmud étudie cela. Quelqu'un qui doit 8 heures de travail à son patron, est-ce qu'il a le droit, par exemple, de prendre du temps pour dire avec cet Amazon? Il vole du temps à son patron. Vous voyez jusqu'où ça va, là, le scrupule de l'exactitude. Bon, il y a des réponses dans ce cas-là. Et 8 heures, on dort, et 8 heures, on étudie. Bon, ça, c'est la norme. Hein. Alors, qu'est-ce que vous voulez avec 8 heures d'études, arriver à maîtriser le problème de la Torah? Si vous connaissez des Talmidei Chachamim qui se voient la Torah, vous savez que c'est 24 heures sur 24. Et donc, on est devant une impossibilité. Comment résoudre le problème de l'homme? Et voilà que la Torah commence une histoire de la recherche de l'identité d'Israël qui serait capable des deux génies. Et le génie des tâches de la matière et le génie des tâches de l'esprit. Vous comprenez très bien que ça ne peut se résoudre qu'au niveau d'une société où il y aurait solidarité entre celui qui se voit à l'esprit, celui qui se voit à la matière. C'est clair? Vous avez bien compris le problème, okay? Donc, ça c'est le rêve que Isaac et Rivka ont à résoudre, à trouver une solution. Comment faire que Ésaü et Jacob s'aiment, puisque par chance, chacun d'entre eux a choisi une des deux vocations humaines? C'est un miracle. Hein? Imaginez que les deux soient des hommes de l'esprit, les tâches de la matière seront abandonnées, l'humanité ne peut pas vivre. C'est clair. Imaginez que les deux soient des hommes de la matière, les tâches de l'esprit seront abandonnées, l'humanité ne peut pas vivre, disons, survivre au niveau spirituel, c'est-à-dire vivre bien. Dans les deux cas, c'est échec. Alors voilà, chance. Ésaü préfère la matière, c'est lui qui apporte à manger sur la table de ses parents. Et le Midrash va tout de suite à l'essentiel. Il faut qu'il mange cachère. Eh bien, il savait faire la chasse cachère. C'est un Midrash, mais qui va au fond du problème. Il trompait son père en lui disant « J'ai aiguisé mes flèches de telle sorte que la shrita se fait d'après la loi. » Et Isaac fait semblant de le croire. Hein? Imaginez, vous savez que la chasse, c'est une conduite barbare. Et ben, le symbole de la barbarie des goïms, c'est la Saint-Hubert. Vous savez que c'est la Saint-Hubert? C'est le curé qui bénit les chasseurs. Je ne sais pas si vous rendez compte à quel point c'est barbare. Hein? Regardez la poésie française. J'aime le son du corps, le soir au fond des bois, c'est celui-là, Lamartine. Qui c'est? Vigny, Lamartine? Bon, un des deux. Ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire. Le soir au fond des bois continue. Et puis il s'agit de l'agonie de la biche aux abois. Voilà la poésie française. Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on chante? L'agonie d'une biche pendant la chasse. Okay? C'est ça la valeur de l'esprit de ces gens-là. Et je dis ça parce que de voir ces scènes de la Saint-Hubert, vous avez vécu chez les Français, vous savez de quoi il s'agit. Okay? Et alors on voit les scènes où les aumôniers militaires nazis bénissaient les tanks nazis avant l'attaque du ghetto de Varsovie. Oui, c'est la même mentalité. Alors ça, c'est Ésaü. En fin de compte, les tâches d'obtenir les jouissances pour la vie matérielle, ça commence par la nourriture, sont telles que il y a le risque que l'homme voué à la matière soit arrachard. Mais faites bien attention, ce n'est pas fatal. L'homme voué à la matière pourrait être ou tzadik ou rachard. De la même manière, vous allez me dire si c'est clair, que l'homme voué à l'esprit pourrait être ou rachat ou tzadik. Ça veut dire qu'il n'y a pas coïncidence entre la vocation matérielle et rachat, la vocation spirituelle et tzadik. Le problème a quatre dimensions, si vous voulez. Il faut que les tâches de la matière soient résolues. Premièrement, on apprend qu'Ésaü a la vocation matérielle. Mais Ésaü peut être ou rachat ou tzadik. Il s'avère qu'il est rachat. Mais ce n'est pas fatal. Est-ce que c'est clair? Je veux dire, c'est très difficile pour un homme voué à la matière de rester tzaddik. Mais ça ne veut pas dire que c'est fatal qu'il soit rachat. C'est pas parce qu'on est commerçant qu'il faut être voleur. C'est très difficile pour un commerçant de ne pas être voleur. Il faut savoir. Hein. Mais il en a d'autant plus de mérite que s'il est et commerçant et tzaddik. Chaque fois que je rencontre un homme riche, j'ai ce problème. Je me dis de deux choses l'une. Ou bien c'est une crapule, parce que comment être riche quand on n'est pas crapule, okay. Ou bien c'est un saint, et Dieu lui a donné sa richesse, bien qu'il soit tzaddik. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Okay. Et c'est vrai, j'ai connu des hommes très riches qui étaient des tzaddikim, des hommes scrupuleux. Je pourrais vous raconter, mais on n'a pas le temps. Ça existe, des commerçants honnêtes. Okay. Ça existe. Mais c'est rare. Seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas fatal qu'un homme qui s'occupe de la matière soit rachard. Alors, enlevez-vous de l'esprit l'idée que Ésaü était condamné, destiné, prédestiné à être rachard. Ce n'est pas du tout son identité d'abord, pas plus que Caïn, comme on l'a étudié. Hein. D'abord, son identité, c'est d'être voué à la matière. C'est ça qu'on apprend de la Torah. La Torah ne nous dit pas que son identité, c'est d'être voué à être rachard. Comprenez bien ça. J'ai trop souvent entendu ces bêtises-là, parce qu'on lit la Bible superficiellement, ça me mène à vous mettre en garde. Faites bien attention. Point de départ de ce récit, Ésaü, c'est pas un rachard. C'est un homme de la matière. Et il pourrait être ou tzaddik ou rachard. Il est arrivé qu'il est devenu rachard. Est-ce que c'est clair? De la même manière, c'est clair pour tout le monde, okay? De la même manière, je vous donne un exemple. Celui qui a inventé l'aspirine, c'est le meilleur remède qu'on a trouvé pour les maladies humaines. Celui qui a...